Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour, nous sommes à table avec Jean-Daniel Dubois. Vous entendez cette musique ouïghour. Jean-Daniel Dubois, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études en Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire des mouvements gnostiques anciens et de la religion manichéenne. Cette musique qui pourrait être une musique manichéenne, pourquoi parler de manie dans On ne parle pas la bouche pleine ?
La religion manichéenne est une religion qui a certaines prescriptions alimentaires. Et les manichéens, effectivement, pensent qu'il faut manger certaines nourritures et pas d'autres. Et donc, c'est tout à fait intéressant de réfléchir à ce que représentent les manichéens, même si c'est une religion qui a pratiquement disparu aujourd'hui. Mais c'est une religion qui a été très importante dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, qui défendait, en fait, un certain principe d'essayer de respecter toutes les énergies que nous avions dans les aliments. Et donc c'est à ce titre que c'est une religion peut-être particulière, mais un peu oubliée.
La religion manichéenne, c'est le prophète Mani, c'est le 3e siècle.
Oui, la religion manichéenne, c'est une religion qui vient de l'Empire d'Iran. Mani est né en 216, il instaure cette religion dans les années 240 et suivantes. Il est décédé en 277, et donc c'est une religion qui est vraiment née en plein milieu du 3e siècle de notre ère, et qui s'est répandue dans l'Orient méditerranéen dès la fin du 3e siècle, et qui a duré en Occident au moins pendant 2 siècles, mais qui s'est surtout répandue le long des routes de la soie jusqu'en Chine, et on arrive à retrouver encore au 20e siècle des traces de la vénération de Mani dans certains temples taoïstes.
Mani, c'est un disciple de Jésus-Christ, de Bouddha et de Zoroastre.
Mani, c'est d'abord quelqu'un qui est né dans une secte juive, et plus exactement judéo-chrétienne, au début du 3e siècle de notre ère, qui a été exclu de cette secte baptiste et qui, en fait, a prêché une nouvelle religion qui intégrait, d'une part, la figure de Jésus, mais aussi la grande figure de Zoroastre, qui était l'ancêtre de la religion de l'Iran zoroastrien mazdéen au temps du 3e siècle de notre ère. Et Mani a aussi pensé que Bouddha était un grand prophète de l'humanité. Et donc le manichéisme est vraiment une religion de prophètes qui intègre Jésus comme prophète, Zoroastre comme prophète et Bouddha comme prophète.
Et alors pourquoi le mot manichéen est-il devenu synonyme de dualité entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir?
Alors la religion manichéenne est effectivement un système religieux qui prône l'opposition entre une terre de lumière et une terre de ténèbres. Et donc il s'agit de faire passer les humains qui sont dans la terre d'ici-bas, dans le monde dans lequel nous vivons, dans un royaume de lumière. Et ça c'est quelque chose du système religieux qui a fait que quand les manichéens ont été persécutés par l'Empire romain à partir du début du 4e siècle, les manichéens ont été perçus en Occident comme des hérétiques. Et du coup, le terme manichéen est devenu un terme, au bout de quelques siècles, qui désignait les hérétiques en général. Au Moyen-Âge, on a utilisé le terme manichéen à tort et à travers, sans lien du tout avec le manichéisme d'origine. Mais du coup, le terme est resté dans la langue française jusqu'à aujourd'hui comme quelque chose qui désigne une opposition fondamentale entre le blanc et le noir, la lumière et les ténèbres, en fait un système un peu dualiste entre deux sortes de principes.
Il y a un manichéen qui est justement un manichéen du 4e siècle, qui a écrit un texte que vous allez peut-être nous lire.
Oui, je trouve que celui qui fut manichéen nous dit ceci. Supposons un homme assez sobre et frugal, pour modérer l'appétit de son estomac et de son goût pour ne prendre en fait qu'un repas par jour. À ce repas, on lui sert des choux avec un petit morceau de lard, juste de quoi apaiser sa faim. Et par mesure de santé, il calme sa soif avec deux ou trois gorgées de vin pur. C'est là son régime. Mais à l'opposé, on peut penser à un autre homme qui ne touche ni aux viandes ni au vin. Et à la 9e heure, il mange avec appétit des plats variés de légumes exquis et exotiques saupoudrés de poivre. Au commencement de la nuit, il soupe de la même manière, il boit de l'hydromel, de la liqueur de raisin, des sucs exprimés de divers fruits qui imitent aussi bien l'aspect du vin et le surpassent en délicatesse. Et il a soin de faire cela autant chaque jour et de prendre jouissance à la même nourriture. Face à ces deux portraits, quel est celui qui est le plus abstinent ? Celui qui aime le chou ou celui qui aime...
Le chou au lard.
Le chou au lard.
Oui.
Ou celui qui aime en fait... une série de légumes assaisonnés de certains poivres.
Alors celui qui aime les légumes, c'est le pionnier des véganes, c'est le manichéen.
Alors exactement.
De qui est ce texte, Jean-Daniel Dubois ?
Ce texte émane d'un ex-manichéen, quelqu'un qui a été manichéen pendant 9 ans, de 372 à 300, ou 373 à 383 à peu près. Le texte que j'évoque date de 388. Et c'est sans doute le manichéen le plus connu en Occident, puisqu'il s'agit de Saint-Augustin. C'est quelqu'un qui a passé 9 ans comme auditeur au catéchumène chez les manichéens, avant de se convertir au christianisme et de devenir prêtre, puis évêque d'Hippone dans l'Algérie actuelle.
Si on évoque Augustin, vous dites auditeur, auditor, il y a les élus et les auditeurs. Quelle est la différence entre les deux manichéens et quelle est la différence dans leur régime alimentaire ?
Alors, l'église manichéenne, parce qu'elle prétend être une église, l'église manichéenne est composée de deux sortes de catégories de personnes, les auditeurs ou les catéchumènes, ceux qui, en fait, ont le droit de travailler, d'être mariés, et, d'autre part, les élus, qui sont, en fait, chargés de la prédication et de l'entreprise missionnaire. Ce sont les élus aussi qui organisent les cérémonies ecclésiastiques, la liturgie, qui recopient les manuscrits pour les transmettre. En clair, ces deux sortes de catégories sont très précises parce que les auditeurs, pouvant être mariés, pouvant travailler, sont censés entretenir les élus. Les élus, par définition, jeûnent un peu plus que les auditeurs, mais reçoivent des repas préparés par les auditeurs. Les élus sont des sortes, je dirais, d'une sorte presque de moines. La distinction entre auditeurs et élus correspond un petit peu à ce qu'on voit aussi dans le bouddhisme aujourd'hui, avec des moines qui vivent dans des monastères, mais qui sont entretenus par une série de personnes qui entretiennent le personnel d'un monastère.
Je crois qu'il y a trois sceaux dans la religion manichéenne, pour l'appeler comme ça, le sceau de la main, le sceau du sein
et le sceau de la bouche.
Et le sceau de la bouche.
C'est comme ça en tout cas que Saint-Augustin nous rapporte le résumé des commandements du manichéisme. Le sceau de la bouche, c'est quelque chose qui a à voir avec ce qui rentre et sort de la bouche, mais d'abord ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire en fait la parole droite. Ce qui rentre dans la bouche, c'est une série d'aliments, et donc effectivement les prescriptions alimentaires, ça a à voir avec les prescriptions de base des commandements du manichéen. Le sceau de la main, ça a à voir avec le fait de travailler les mains, donc travailler comme ouvrier agricole ou travailler pour gagner sa vie. Et le sceau du sein, ça a à voir avec les prescriptions qui, en fait, renvoient à l'abstinence sexuelle. Les élus sont censés ne pas être mariés. Les auditeurs peuvent être mariés, mais ça veut quand même dire que les auditeurs doivent, avec le sceau du sein, mener une vie chaste tout en étant mariés.
Sur un plan donc purement alimentaire, comment se traduit l'expression, la transmission des énergies entre le minéral, le végétal et l'animal ? Et pourquoi l'interdiction de tout ce qui est animal ?
Alors, les manichéens pratiquent en fait habituellement un repas par jour, plutôt le soir. Un repas fait de légumes, principalement, mais de légumes qui sont censés contenir beaucoup d'éléments lumineux. Pour le dire comme ça, des légumes qui sont très souvent verts, alors c'est des salades, des choses comme ça, des concombres, des melons. Les manichéens pensent effectivement qu'on trouve dans ces aliments-là beaucoup d'éléments lumineux et il faut pouvoir ingurgiter beaucoup d'aliments qui ont ces éléments lumineux pour pouvoir raffiner la lumière. C'est peut-être un petit peu compliqué pour nous aujourd'hui que de se rendre compte que les manichéens inventent une religion qui est à comprendre au niveau du microcosme humain. Tout ce qui rentre dans le corps humain doit raffiner de la lumière. Et en même temps, cette religion vante les mérites d'un macrocosme de l'univers où il y a des échanges entre ce qui est énergie vitale et raffinage de cette énergie vitale.
Donc pour la COP, là on est vraiment dans la COP 21 là.
Presque, si on peut dire, puisque les manichéens effectivement avaient un sens de l'organisation du cosmos et avaient un respect fondamental pour tout ce qui était énergie vitale. Et donc il fallait éviter de tuer des animaux, mais même quand on tue entre guillemets des épis de blé pour faire du pain, l'auditeur qui prépare le pain pour les élus est obligé de se confesser et de confesser les péchés qu'il a commis en coupant des épis de blé. Et donc, on voit que les élus sont censés recevoir le pain préparé par les auditeurs, mais en même temps, les élus sont censés pardonner, grâce à certaines prières, les péchés des auditeurs, puisque les auditeurs ayant fait du pain ont en fait heurté la nature.
Jean-Daniel Dubois, sur ce sujet en particulier, je crois que Saint-Augustin a aussi écrit, et de façon, on peut le dire, un peu sarcastique.
Oui, alors, Saint-Augustin se moque en fait de ce système où finalement tout est digestion. Il dit de ces anciens manichéens, « Vous affirmez que quelque chose de la partie divine s'échappe quand on cueille les légumes et les fruits, quand on les abîme en les pressant ou en les broyant, en les cuisant, et même en les mordant ou en les mâchant, et s'échappe toutes les fois que les animaux bondissent, se remuent ou travaillent, font n'importe quoi, s'échappe même pendant notre sommeil quand la chaleur interne opère en notre corps ce qu'on nomme la digestion. » Le système manichéen est en fait une sorte d'appareil de digestion microcosmique au niveau du corps humain et macrocosmique au niveau de l'univers. Les manichéens ont envisagé le système avec une croix de lumière qui est
Expliquez-nous cette croix de lumière qui est la croix chrétienne, en fin de compte.
Oui, c'est la reprise du symbole chrétien avec un Jésus mort sur une croix. Les manichéens pensaient que Mani était mort crucifié, mais tout le monde reconnaît qu'il n'y a jamais eu de crucifixion de Mani. Mani est mort dans une prison en 277. Concrètement, ce n'est qu'après sa mort qu'on a représenté sa mort comme une crucifixion. Mais c'était une volonté précise des manichéens que de représenter cette histoire de crucifixion de Mani, parce qu'il s'agissait de redire quelque chose de la crucifixion de Jésus. Et la crucifixion de Jésus était pour eux le symbole de cette grande croix qui était en fait pour les manichéens une croix cosmique, dont les bras horizontaux représentaient la matière vitale enfermée dans la matière du monde, alors que le bras vertical de la croix était ce qui permettait de faire remonter vers les lieux célestes et vers les lieux de la lumière les énergies vitales qu'il s'agissait de raffiner. Donc la croix de lumière est en fait une croyance particulière des manichéens et qui exprime finalement ce système d'une sorte de grand alambic cosmique qui permet de faire remonter les énergies raffinées grâce aux manichéens quand ils mangent des légumes ou grâce aux manichéens quand ils chantent. Le fait de chanter des hymnes et des prières et même de faire ça dans les places publiques, c'était quelque chose qui permettait pour les manichéens de raffiner la lumière.
Jean-Daniel Dubois, cette vision du cosmos, cette façon d'intégrer des énergies vitales étaient moquées par leurs contemporains ?
Oui, parce qu'on a utilisé le terme grec, la mania, c'est-à-dire la folie, pour dire que Magny était un maniaque, en fait un fou, avant de dire que c'était un hérétique. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger.
Qui reste manichéen aujourd'hui ? Est-ce qu'au XXIe siècle, il y a encore des manichéens qui pratiquent ces rites alimentaires aussi ?
Alors, c'est difficile à dire. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît encore de traces toutes vagues du manichéisme, c'est quelque chose qui arrive jusqu'en Chine, encore aujourd'hui, dans certains sanctuaires où on a gardé la figure de Mani et la statue de Mani comme un objet de vénération. Je pense que les bouddhistes ou les taoïstes qui vénèrent Mani comme ça en Chine aujourd'hui, on a repéré quelques 50 sanctuaires où on peut encore trouver la statue de Mani aujourd'hui qui est vénérée. Je pense que c'est quelque chose qui est très loin du manichéisme originel.
Et Mani, pour se le figurer, ressemble un petit peu aux figures perses.
Mani, effectivement, est un personnage curieux parce que c'est un médecin, c'est un prédicateur, c'est un prophète.
C'est un philosophe.
C'est un philosophe, mais c'est aussi un peintre. Mani est resté dans l'histoire de l'art comme un personnage tout à fait important parce qu'il a fait une bande dessinée, un livre de planches, de miniatures persanes qui disait en images l'essentiel de la doctrine et l'essentiel des grands mythes de la cosmologie, de la façon dont le sauveur vient sauver l'humanité, etc. Ce livre dit l'image est un livre qui a circulé pendant plusieurs siècles et dont on a encore des traces vers le 11e, 12e siècle chez les auteurs érudits musulmans qui ont vu des copies de ce livre.
Et Jean-Daniel Dubois, il y a un trésor qui est à Paris. Dites-nous de quoi il s'agit.
Alors, c'est une découverte toute récente qui date de 2013. Il se trouve qu'il y a au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale un sceau qui sert à sceller des lettres, un sceau tout à fait extraordinaire d'une pièce de cristal sur laquelle il est écrit, au-delà d'une représentation figurée, « Mani, apôtre de Jésus-Christ ». Depuis 2 ans, on peut maintenant dire que ce sceau était le sceau de Mani.
Pour différentes raisons. Le cristal, c'est pour raffiner la lumière aussi ?
Je pense que le cristal a été choisi pour sa solidité, mais la qualité du cristal est telle que c'était visiblement un type de cristal qu'on ne pouvait trouver que dans la cour sassanide. Mani a été
donc
à la fin...
Donc la cour sassanide, c'est la cour impériale...
La cour de l'Empire d'Iran avec Chabour. Mani a essayé de faire partie de l'entourage de l'empereur d'Iran vers les années 250-255... Et c'est sans doute à la cour que Mani a réussi à trouver ce sceau.
Il y a toute une école philosophique manichéenne.
Les manichéens sont des gens qui ont été intéressés par les sciences en général. Donc, quand ils découvraient un nouveau pays pour prêcher la religion manichéenne, ils essayaient de fréquenter les philosophes, les médecins, les astronomes. Et donc, de fait, on trouve des manichéens aussi dans l'école de philosophie de Platon, en plein milieu de l'Égypte, à Lycopole, une capitale provinciale de l'Égypte. On trouve des manichéens en train d'apprendre Platon, donc en plein milieu du IIIe siècle, ou vers la fin du IIIe siècle. Alexandre de Lycopole, un philosophe platonicien, a rédigé la première réfutation du manichéisme parce qu'il y avait des clients manichéens dans son école de philosophie platonicienne.
Thank you.
Jean-Daniel Dubois, vous avez aussi travaillé sur des fouilles manichéennes. Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Je n'ai en fait exploité que des documents qui ont été trouvés en Égypte, écrits en copte, au milieu du IVe siècle.
Parce que ce qu'on ne dit pas à nos auditeurs, c'est que Jean-Daniel Dubois, vous lisez le copte, le grec, l'araméen, le latin, qu'est-ce que j'ai oublié encore ?
Oui, ça fait un peu une grande cuisine, tout ça.
Hein, oui, mais c'est le sujet de l'émission.
Concrètement, non, j'ai essayé de traduire et de commenter en français certaines de ces lettres trouvées dans cette fouille de Kélis. Kélis, c'est l'ancien nom, c'est dans l'oasis de Darla, à l'heure actuelle. C'est à quelques 200 kilomètres du Nil, dans le désert libyque, mais en Égypte, à quelques 800 kilomètres du Caire. C'est un lieu où, visiblement, des manichéens se sont réfugiés après le début de la persécution contre le manichéisme en 302. Persécution par l'Empire romain contre la religion manichéenne. Et les manichéens qui se sont réfugiés dans cette oasis ont visiblement vécu le temps de au moins deux ou trois générations. Et il se trouve que dans les années 90 de la fin du XXe siècle, on a identifié trois maisons dans lesquelles il y avait des manichéens historiques. J'entends des gens qui ont véritablement vécu le manichéisme et qui, en partant, ont laissé toutes les archives familiales, les lettres de la grand-mère, les lettres de la tante, etc. Et on peut reconstruire...
C'était écrit en quelle langue ?
Écrite en copte.
En copte.
Alors, le copte, c'est la langue de l'Égypte, la langue des pyramides, simplement pas écrite avec les hiéroglyphes, mais la langue de l'Égypte écrite avec des lettres grecques. Mais les vocables sont égyptiens, le dictionnaire est égyptien. Et en plus, il y a quelques lettres supplémentaires que le grec ne connaît pas. Donc,
On a trouvé une amphore.
Oui, alors dans cette fouille de Kélis, on a trouvé un bouchon d'amphore sur lequel était écrit « Graines de persil ». Pourquoi rassembler dans une amphore des graines de persil ?
Pourquoi ?
On peut imaginer que les manichéens mettaient du persil dans leurs légumes.
Parce que ça raffine bien la lumière, le persil ?
Apparemment, il paraît que ça a des vertus de purification particulière, parce que non seulement nous savons aujourd'hui, alors c'est peut-être pas le persil que nous mettons nous dans nos salades, c'est du persil tel qu'on le voit pousser en Égypte encore aujourd'hui, et ça représente plutôt une sorte de plante aromatique qui fait plusieurs dizaines de centimètres, mais non, le persil a des vertus curatives et des vertus purificatoires, donc ça peut servir effectivement presque d'antibiotique.
Ils sont véganes, mais ils sont aussi homéopathes.
Oui, parce que c'est des gens qui ont un sens du corps humain et de toute une série de médecines paramédicales, si je peux dire, à base de plantes, à base d'épices. Et de fait, le fait d'avoir des graines de persil à Kélis, c'est tout à fait intéressant, parce que ça sous-entend sans doute, si on en met une amphore pleine, c'est que ça devait servir à un certain commerce.
C'est une pharmacie.
Alors, ça peut servir à la pharmacie, mais ça peut aussi servir de monnaie d'échange. En pleine oasis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on peut faire pousser sur place, et en même temps, quand on n'a pas toutes les ressources qu'on a dans la vallée du Nil ou à la capitale, Alexandrie. Donc, le fait d'avoir certaines ressources qu'on peut vendre dans la vallée du Nil, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour les manichéens auditeurs, qui sont là pour entretenir les élus qui vivraient éventuellement dans cette oasis.
Jean-Daniel Dubois, l'huile joue un rôle particulier aussi chez les manichéens, et je crois que Saint-Augustin en parle.
Oui, alors...
Redonnez-nous le nom du livre.
Oui, tout à fait. C'est donc l'une des premières réfutations du manichéisme par Saint-Augustin quand il décrit les mœurs des manichéens. C'est le traité sur les mœurs de l'Église chrétienne et les mœurs des manichéens. Donc c'est une description informée des pratiques du manichéisme, et en même temps c'est aussi une dévalorisation systématique par Saint-Augustin de ce que font les manichéens.
Quoi. Et de ce qu'il a été.
De ce qu'il a été, oui. Il ne fait que rappeler ce qu'il a été pour pouvoir mieux les critiquer. Quoi. Pourquoi juger que l'éclat brillant de l'huile signifie un grand mélange de bien ? Pourquoi se huiler la gorge et les intestins? Pourquoi redouter de toucher des lèvres les gouttes aussi brillantes et distillées par une chair grasse? Pourquoi penser que le melon doré sort des trésors de Dieu, mais pas la graisse de jambon ou le jaune d'œuf? Pourquoi la blancheur annonce-t-elle Dieu dans la laitue? Ne l'annonce-t-elle pas dans le lait? Saint Augustin se moque de leur façon de concevoir les couleurs, parce qu'effectivement, il fallait regarder les couleurs de certains aliments pour pouvoir apprécier s'ils étaient des aliments pleins d'énergie vitale ou pas.
Jean-Daniel Dubois, est-ce qu'il y a une scène particulière, une sainte scène particulière dans la religion manichéenne?
On ne peut pas vraiment comparer les rites des repas manichéens avec les rites chrétiens, et particulièrement avec le rite eucharistique. Les manichéens ont l'habitude de faire leur repas soit auditeur et élu, ou soit élu tout seul, le soir. En même temps, dans ces repas, on lit des choses qui sont utiles pour l'âme, et en même temps, on mange des melons, par exemple, ou certains fruits qui sont aussi pleins d'énergie vitale. Les manichéens, en même temps qu'ils organisent des repas, ont aussi des pratiques de jeûne. Et donc, il y a des jeûnes réguliers, au bout de certains jours, et il y a une pratique qui s'est mise en place dans le christianisme un petit peu après le démarrage du manichéisme, le fait de prévoir un mois de jeûne avant la fête de Pâques. Les manichéens parlaient rarement de la fête de Pâques, mais ils parlaient, eux, de la fête qui célébrait la mort de Mani crucifié. Et donc, de fait, le jeûne pascal, c'était quelque chose qui était une chose pratiquée par les manichéens. Pendant 30 jours, on se préparait à la fête qui était la fête d'un grand nouvel an, si on peut dire, où on rappelait la mort de Mani et où, en même temps, les manichéens confessaient leurs péchés, les péchés annuel, les péchés qu'ils avaient faits pendant une année pour pouvoir se débarrasser de ces péchés-là et faire en fait un nouvel an qui permettait de renaître et de revivre et de continuer à raffiner la lumière.
Merci beaucoup, merci d'avoir raffiné la lumière avec nous, Jean-Daniel Dubois.
Merci.
Attention, vous. Hein. 3, 4. Tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Bruno Mourlan, le mixage de Pierre Mine et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1001 nuits. Vous pouvez aussi la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.